Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
Ça a été un peu un déclic et puis effectivement, j'ai déménagé au même moment dans le sud de la France vers Avignon, dans le Vaucluse. Et là, c'est une terre de jeu extraordinaire pour le sport de plein air. Et là, je me suis mis, allez, terminé le stade de 400 mètres. On va sortir des sentiers battus, justement. Puis on va aller découvrir un petit peu tout ça. Et le raid aventure, c'est par équipe de 2, 3 ou 4. Alors, le format international que je fais moi maintenant, c'est à 4 en équipe mixte. Et c'est des épreuves qui durent 3, 4, 5, 6 jours, non-stop, où on doit gérer notre sommeil, bien sûr, notre alimentation, seul, pas comme dans les trails organisés. Et on enchaîne différentes activités, essentiellement donc kayak, course à pied, trekking et VTT. Et après, il y a d'autres activités annexes qui arrivent. Et le tout en orientation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de balisé, on a nos cartes, pas de GPS, rien. On a des cartes à l'ancienne, IGN ou autre, et on doit trouver des points de passage et effectuer le parcours imposé le plus vite possible. C'est passionnant.
Je vais te demander de revenir très brièvement en quelques phrases sur les moments forts de tes différents raids d'aventure. Est-ce que tu pourrais me dire celui qui a été jusqu'à maintenant pour toi le plus surprenant, le plus inattendu ? Tu as déjà été déstabilisé par une situation ou un contexte très inhabituel ?
Surpris, déstabilisé, oui. Je me souviens en 2013, on va en Afrique du Sud pour un de nos premiers grands raids à l'étranger. Et puis là, à un moment donné, on traverse un parc animalier. Il nous dit « Ah, il y a un rhinocéros, vous approchez pas trop ». Ok. Et puis à un moment donné, on a VTT, et puis là, t'as des girafes à côté qui se mettent au galop à côté de nous. Donc ça, c'est juste un moment magique. Et puis après, on prend les kayaks et on commence à descendre des rapides. Enfin, ils nous préviennent pas trop qu'on arrive dans des rapides très engagés, quoi. Et en France, d'habitude, t'as de la sécu, tout ça. Tu te dis, bah, non, rien, quoi. Donc on se renverse, je perds la caméra. Enfin voilà. Et on finit notre section, on finit notre raid. Bon, à la fin. Une fin incroyable. On se retrouve dans des roches magnétiques dans le brouillard et la boussole, elle tournait. La boussole, elle tournait, donc on est dans le brouillard, on n'a plus de boussole, plus rien. Donc on se met à 4 dans une tente pour une personne sur le flanc, là, et puis on dort 2-3 heures en attendant le lever du jour. Et puis au lever du jour, on arrive quand même à sortir, à franchir la ligne d'arrivée. Un raid incroyable où, à un moment donné, on est aussi le long d'un feu de brousse où t'as juste un Africain là qui est là à côté pour gérer un peu le feu de brousse. Et puis remise de récompense, et là tu te dis, avant tu discutes, tu dis quand même, il n'y avait pas de sécu en kayak, ça c'est bizarre, machin. Et là, l'organisateur, il fait lever tout le monde et il remercie Dieu. Il remercie Dieu d'avoir assuré la sécurité du raid, quoi. Et là, toi, Français,
tu regardes
ça.
Sympa comme bénévole, Dieu.
Ouais, le gars, bah, en fait, ça coûte pas cher. Hein. Donc, tout le monde se fait la prière pour remercier Dieu d'avoir veillé à la sécurité de tous les concurrents. On est tous entiers, vivants, machin.
Il aurait pu vous ouvrir la rivière en même temps en tant qu'athlète, tu vas faire comme Moïse.
Donc, tu vois, des fois, la culture, c'est assez fou, quoi. Bah, là, sur le tour des géants, des glaciers, pardon, on a des passages pas sécurisés, on vient faire atteint. En France, mais jamais tu peux faire une organisation comme ça. Il faut 3 BE à l'entrée, la sortie. Enfin, moi, je suis organisateur, je le sais, c'est super compliqué. Et là, bon, bah voilà, là, t'es autonome. Bah, en même temps, tu signes, hein, tu dis, bon, moi, je sais faire du kayak en classe 3, donc t'as intérêt de savoir le faire, quoi. Si tu sais pas le faire, tu prends des risques. Ou alors, tu sors, tu portes ton bateau pendant un kilomètre et tu réembarques.
Tu inclus dans tes programmes annuels, dans tes grands rendez-vous, il y a toujours au moins un gros trail. C'est quelque chose dont tu as besoin en complément. C'est des épreuves, en tout cas des moments de ta vie plus solitaires, et c'est des choses que tu as besoin aussi d'aller chercher en complément.
Ouais, écoute, c'est assez récent quand même, mais ça m'a toujours titillé d'aller. Alors au début, je faisais le petit trail du Ventoux, enfin petit, c'est quand même 42 bornes, mais c'était plutôt ça dans les années 2010, tu vois. Et puis à un moment donné, j'ai quand même voulu aller voir ce que c'était que l'ultra, mais sans me préparer. Donc c'était, j'avais des fins souvent un petit peu difficiles. Et puis fin des années 2010, là quand même, ouais, ça a commencé à me titiller. Je suis allé sur les Chapelles Belles, sur le Tour des Géants, et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Mais bon, c'était toujours très secondaire par rapport au raid. Et puis avec l'arrivée du Covid, là, effectivement, j'ai basculé dans autre chose. Je suis parti dans des projets solo très très longs qui effectivement m'apportent beaucoup.
Tu avais déjà par le passé eu l'occasion de participer à la petite cousine du Tour des Glaciers, le Tour des Géants, qui est longue de 330 km, c'était en 2019. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette expérience et surtout quels enseignements tu as pu en tirer à l'époque? Avec quoi t'es reparti dans ton petit bagage comme apprentissage?
Écoute, ce Tour des Géants 2019, je l'avais bien préparé pour une fois, on va dire. J'avais préparé cet ultra trail comme il faut tout l'été. Et du coup, j'étais vraiment bien parti. On était parti dans le grand froid aussi, il y avait neigé, etc. J'avais veste Gore-Tex et bas Gore-Tex toute la course. Et j'étais à mi-course, on va dire, avec le troisième, quoi. Donc c'était vraiment, j'étais très heureux de ça, parce que c'était un peu une surprise à l'époque quand même. J'arrivais du raid sans trop de référence. Mais sauf que j'avais pris froid dans la deuxième nuit. Et en fait, je me suis retrouvé avec la trachée, les bronches complètement prises. Et du coup, la fin de course a été un long calvaire. Là, les 48 dernières heures, c'était comme si je grimpais l'Everest à chaque col. Je faisais trois pas, je m'arrêtais 10 secondes. Je faisais trois pas, je m'arrêtais 10 secondes. Et j'avais été où? J'ai jamais abandonné de course. Donc là, encore une fois, j'étais au bout, quoi. Je voulais vraiment la finir, cette course. Donc, je l'ai finie en perdant beaucoup de temps et beaucoup de place. Mais c'était pas grave. Mon idée, c'était d'aller au bout de la course. Et donc, je me m'étais dit que j'allais revenir sur cette course, quoi. Et puis, comme je l'avais fini, j'avais la possibilité de revenir, du coup, sur le Tour des Glaciers. Comme c'était
encore
plus long.
Tu t'es pas posé la question longtemps.
Je me suis pas posé la question longtemps. Le Tour des Géants, si tu veux, le parcours est sympa, mais il redescend quand même pas mal en fond de vallée où il y a des parties courantes qui sont pas trop dans mes qualités. Donc, je me suis dit, le Tour des Glaciers, là, 450 dans les cimes, avec très peu de redescentes dans les vallées, ça va juste être magique, quoi. Donc, voilà. Du coup, comme il y avait des projets de raid aventure en septembre-octobre jusque-là, je l'avais pas fait, mais là cette année j'avais coché, et avec Sandrine avait coché le Tour des Géants, moi le Tour des Glaciers, et puis du coup on s'est dit allez, on fait l'impasse sur les championnats du monde de raid et on va en Italie, on va en Val d'Aoste.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.